Les informations, Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Guerre en Ukraine, investissement en France, relations économiques avec l'Europe. Programme chargé pour Xi Jinping. Le président chinois arrive cet après-midi en France pour une visite d'État de 2 jours, destinée entre autres à célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre Paris et Pékin. Nous en parlerons avec notre invitée, Dominique André, ancienne correspondante de Radio France en Chine. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de saper les négociations de trêve. Des négociations censées reprendre aujourd'hui au Caire. Mais le gouvernement israélien a décidé de ne pas envoyer sa délégation, provoquant la colère des familles d'otages. Cette guerre entre Israël et le Hamas engendre une multiplication des actes antisémites. C'est ce que démontre une enquête réalisée par l'IFOP et publiée aujourd'hui. 86% des juifs français affirment craindre davantage d'être victimes d'agressions depuis le 7 octobre dernier. Et puis vous êtes invité à l'Opéra ce week-end à l'occasion de la 17e édition de l'opération « Tous à l'Opéra ». Les scènes lyriques ouvrent leurs portes durant 2 jours pour tenter d'attirer un nouveau public. Une visite présentée comme politique et intime. Le président chinois Xi Jinping arrive en France cet après-midi pour une visite d'État de 2 jours. Le numéro 1 de la superpuissance asiatique sera accueilli vers 16h par Gabriel Attal avant de rencontrer demain Emmanuel Macron. Les deux dirigeants célébreront les 60 ans de relations diplomatiques franco-chinoises, des relations établies en 1964 par le général de Gaulle.
Il n'y a évidemment là, de notre part, rien qui implique aucune sorte d'approbation à l'égard du régime qui domine actuellement la Chine, en nouant avec cet État des relations officielles. La France ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est.
Reconnaître le monde tel qu'il est. Bonjour Dominique André.
Bonjour Julie.
Vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France, ancienne correspondante en Chine. Merci d'être avec nous en direct sur France Culture. Le général de Gaulle était-il visionnaire en 1964 ?
Certainement, il suffit de voir ce qui est devenu la Chine. En 64, le général de Gaulle le dit, la Chine c'est 850 millions d'habitants et elle s'apprête à avoir la bombe nucléaire. Donc le général de Gaulle finalement se montre très visionnaire. Il voit bien que la Chine c'est le pays avec lequel il faudra compter, sans pour autant être proche des communistes, bien au contraire. Et Richard Nixon lui-même, l'américain, a confié que le général de Gaulle l'avait inspiré. Il l'a suivi, les États-Unis reconnaîtront la République populaire de Chine 15 ans après la France.
Alors, 60 ans de relations diplomatiques et une troisième visite de Xi Jinping en France qui s'annonce très chargée. Cérémonie officielle demain aux Invalides avant une série d'entretiens, notamment avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Quels sont les enjeux, Dominique, des 2 prochains jours?
Alors, je dirais énorme. Le premier enjeu, si on commence par ça, c'est l'économie. On a toujours la question du déficit commercial entre l'Union européenne et la Chine. Près de 400 milliards d'euros de déficit commercial pour l'Union européenne en Chine. Et pour la France, c'est presque 50 milliards d'euros. La Chine, c'est le plus important partenaire commercial de l'Union européenne, avec des déséquilibres, on le voit, mais aussi des différends. La France va essayer de s'appuyer durant cette visite d'État, évidemment, sur l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron fait venir la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour essayer de négocier une fois de plus, si je puis dire, un meilleur accès au marché chinois, notamment dans des secteurs de pointe pour la France, le secteur agroalimentaire. Les Chinois ont toujours dit que le secteur agroalimentaire français était un secteur de pointe. Eh bien, qu'il fasse des progrès, notamment sur l'embargo sur le bœuf français, ça va un peu mieux, mais l'Élysée compte quand même sur une meilleure ouverture du marché chinois aux exportations françaises sur le bœuf et sur les produits laitiers. Et puis, il y a le dossier hyper sensible qui est celui des voitures électriques chinoises qui sont très compétitives parce qu'elles sont, sur le plan technologique, il faut le reconnaître, très en avance. Mais elles ne sont pas chères car elles sont soutenues par le gouvernement chinois. La Commission européenne a lancé une enquête sur les subventions chinoises au secteur des voitures électriques. C'est un dossier qui est soutenu par la France. La Chine en veut à la France et a déclenché à son tour une enquête anti-dumping sur le cognac. Donc on voit bien que dans le secteur économique, on est quand même sur une ligne de crête parce que en même temps, si vous voulez, l'Union européenne et la France cherchent à avoir des investissements chinois sur leur sol, tout en conseillant aux entreprises de voir un petit peu autour de la Chine. C'est ce qu'on appelle le Chine plus 1. La politique de de-risking, c'est-à-dire commencer à vous diversifier dans la zone Asie et pas seulement de rester en Chine, où l'environnement, il faut le dire, n'est pas très rassurant. On a un taux de chômage important chez les jeunes, une fuite des cerveaux. Et puis, quelle visibilité a-t-on de la politique de Xi Jinping ?
Alors, mardi, il y aura une séquence un peu plus personnelle, indique l'Élysée, avec un déjeuner sur le col du Tourmalet, dans les Hautes-Pyrénées, là où Emmanuel Macron passait ses vacances chez sa grand-mère. Xi Jinping est donc traité en ami par le chef d'État français ?
Je ne dirais pas que Xi Jinping est un ami de la France, mais ce qui est sûr, c'est que la Chine est un pays partenaire de la France, avec lequel, effectivement, la France a des relations diplomatiques, historiques. On l'a vu avec la déclaration du général de Gaulle. Les liens sont anciens aussi, puisque la France a eu une présence sur le sol chinois, ainsi qu'en Asie de manière plus générale. La France est aussi une puissance nucléaire, comme la Chine, et elle est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc la France se doit d'avoir des relations, effectivement, très proches avec la République populaire de Chine.
Après cette visite en France, Xi Jinping se rendra en Serbie, puis en Hongrie, Dominique André. Pour quelle raison ? C'est pour rappeler finalement l'alliance de ces régimes plutôt autocratiques face et contre le monde occidental ?
Oui, ce qui est sûr, c'est que la Serbie et la Hongrie, ex-pays de l'Est, sont des pays qui ont des affinités avec la Russie et avec la Chine. D'ailleurs, je me souviens très bien qu'au dernier sommet des routes de la soie à Pékin en octobre dernier, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, est venu à Pékin en même temps que Vladimir Poutine. BYD, qui est le grand fabricant de voitures électriques en Chine, va installer une usine en Hongrie qui est en cours de construction. Et Xi Jinping, qui va partir en Serbie mardi, on peut noter quand même que sa visite va coïncider avec le 25e anniversaire du bombardement par l'OTAN de l'ambassade de Chine. Et là, on peut vraiment interpréter cette présence de Xi Jinping à Belgrade mardi comme un message effectivement de Xi Jinping aux Occidentaux et surtout aux institutions occidentales dont il conteste l'influence.
Néanmoins, Dominique André, la France, comme les autres gouvernements occidentaux, sont aussi sous la pression de leur opinion publique qui réclame des comptes sur les droits de l'homme. À ce sujet, il y a une manifestation cet après-midi des Ouïghours de France qui estiment que cette visite du président chinois est une gifle d'Emmanuel Macron.
Alors, il y a deux sujets. Il y a l'Ukraine dont on n'a pas parlé, Julie. Vous savez que les Occidentaux reprochent à la Chine de Xi Jinping de soutenir la Russie dans son effort de guerre contre l'Ukraine. Emmanuel Macron espère, durant cette visite, que la Chine va utiliser des leviers pour faire évoluer la position de Vladimir Poutine. Xi Jinping, d'ailleurs, va recevoir très très bientôt, au mois de mai, Vladimir Poutine à Pékin. Mais personne ne se fait trop d'illusions, effectivement, sur la capacité de la France à utiliser son influence ou d'essayer de négocier pour que la Chine le fasse elle-même auprès de Vladimir Poutine. Et sur la question des droits de l'homme, c'est vraiment un sujet, une tache noire sur la République populaire de Chine depuis 1989, depuis le massacre de la place Tiananmen. Et évidemment, la répression contre les milieux des droits de l'homme s'est accélérée sous Xi Jinping en 2015, avec la grande rafle contre les avocats spécialistes des droits de l'homme. Et puis en 2020, avec la loi de sécurité nationale qui a vraiment installé une chape de plomb sur toute la société civile en Chine continentale comme à Hong Kong.
Merci beaucoup Dominique André. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France, ancienne correspondante en Chine. Et j'invite tous les auditeurs à écouter votre podcast Xi Jinping, le prince rouge, podcast disponible sur l'application Radio France. La guerre en Ukraine, vous en parliez, sera l'une donc des priorités abordées par le président chinois et le président français dès demain, alors que l'armée de l'air ukrainienne dit avoir détruit ce matin 23 drones lancés par la Russie. Et pour les soldats ukrainiens chargés de surveiller la frontière russe, eh bien l'incertitude s'accroît à mesure que la guerre s'enlise. Beaucoup de ces militaires comptent donc sur l'aumônier militaire de leur bataillon pour trouver un peu d'apaisement. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Agathe Mahué, Jérémy Thuil et Yachar Fazilov.
Il occupe la dépendance au fond du jardin, dans cette maison squattée par les soldats à quelques kilomètres de la frontière russe. Petro a 39 ans et un col blanc d'aumônier militaire bien visible sous son uniforme.
Ça fait presque un an que je suis dans l'armée.
Au mur, dans la petite pièce, une peinture de Jésus regarde en priant un grand drapeau de l'Ukraine. C'est là que Petro organise des prières tous les jours. Il est une épaule pour tout un bataillon.
Je suis comme un psychologue. Il y en a qui ont du mal à tenir le coup. C'est très dur pour eux. De grands gars costauds, mais qui n'ont plus de force à l'intérieur.
Leur langage commun, c'est aussi l'humour noir.
Oui, ça arrive souvent. Quelqu'un qui entre dans la pièce et te dit « Ah, toujours vivant ?»
Mais ce qui attire le plus les soldats chez Petro l'aumônier, c'est son banc de musculation. Et lui-même l'utilise quasiment tous les jours.
Car je rêve d'aller en France, à Chamonix, participer à l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est l'une des courses les plus populaires au monde. monde. J'irai après la guerre. Alors je m'entraîne pour ne pas perdre la forme.
100 miles. God bless you.
Agathe Mahué avec Jérémy Thuil et Yachar Fazilov. 24 heures après le début des discussions au Caire pour tenter d'arracher une trêve, Israël et le Hamas se montrent toujours inflexibles avant une éventuelle reprise des discussions aujourd'hui, tous deux s'accusant d'entraver les négociations. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Vous êtes correspondant de RFI pour France Culture à Jérusalem. Alors hier soir, des milliers d'Israéliens ont manifesté une nouvelle fois à Tel Aviv pour demander à Benjamin Netanyahou d'accepter un cessez-le-feu afin d'obtenir la libération des otages. Mais le Premier ministre israélien est accusé de vouloir torpiller les discussions, Michel.
Absolument. 24 heures fortes en tension, peut-on dire, après la publication d'informations selon lesquelles le Hamas s'apprêtait à accepter une grande partie des propositions israéliennes pour une trêve et pour une libération d'otages. Eh bien, le bureau du Premier ministre a publié pendant le week-end, en plein Shabbat, deux communiqués citant un responsable politique de haut rang. « Trêve ou non, l'armée israélienne entrera dans Rafah », affirme cette source que les médias ici ont identifié comme étant Netanyahou lui-même. Alors l'accord en principe devrait permettre dans un premier temps une trêve de 6 semaines et la libération de 33 otages. Le gouvernement israélien a décidé de ne pas envoyer de délégation au Caire à ce stade du moins et cela a provoqué la colère des familles d'otages. Benny Gantz, le principal rival de Benjamin Netanyahou, qualifie le comportement du Premier ministre d'hystérique, tandis qu'à l'extrême droite de la coalition, le ministre des Finances Smotrich a parlé, lui, d'un accord de capitulation qui provoquera, à ses dires, une catastrophe. Un éditorialiste du quotidien Haaretz estime que Netanyahou est persuadé que le Hamas rejetterait les propositions israéliennes et quand il a vu que ce n'était pas le cas, eh bien, il a tout fait pour torpiller un éventuel accord.
Et Michel, Benjamin Netanyahou vient par ailleurs d'annoncer la fermeture des bureaux d'Al Jazeera en Israël.
Oui, cela s'est produit il y a une demi-heure à peine. Le gouvernement israélien a voté à l'unanimité des ministres présents la fermeture des bureaux d'Al Jazeera en Israël. Et le Premier ministre Netanyahou a immédiatement publié une annonce sur son compte X. Le gouvernement, sous ma direction, affirme-t-il, a pris cette décision à l'encontre de la chaîne qui se livre à l'incitation contre Israël. Il faut dire que l'idée de fermer la chaîne qatarienne était à l'étude depuis des années sans jamais avoir été appliquée. Et les commentateurs ici estiment que c'est un nouveau moyen de pression sur le Qatar et par son intermédiaire sur le Hamas qui a été mis en place.
Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture, merci. Cette guerre à Gaza déclenchée par Israël, donc après l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas, engendre une flambée d'actes antisémites dans le monde. Des actes antisémites également en forte augmentation en France. Bonjour Jeanne Serrin.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Depuis l'attaque du 7 octobre dernier, un quart des juifs français disent avoir été victimes d'un acte antisémite.
Oui, c'est ce que révèle la nouvelle enquête de l'antenne française de l'American Jewish Committee, publiée par l'IFOP, et qui observe une banalisation des actes antisémites. Et la première cause, selon l'étude, c'est la haine de l'État d'Israël pour trois quarts des Français de confession juive. C'est ce que note Anne-Sophie Seban-Bekash, docteure en géopolitique et directrice de l'antenne française de l'American Jewish Committee.
Le fait de prendre à partie ou de considérer pour responsables les juifs ici en France de la politique du gouvernement israélien ou de les prendre à partie en raison de leur soutien réel ou supposé à l'État d'Israël. Et pour les Français juifs, ça veut dire du coup une peur d'exprimer son identité, des stratégies d'invisibilisation qui se mettent en place, de retirer les signes extérieurs religieux et même de changer son nom.
Une peur particulièrement présente chez les jeunes, car l'antisémitisme se rajeunit. 35% des 18-24 ans pensent qu'il est justifié de commettre des actes antisémites en raison d'un soutien à Israël. L'école est le premier lieu d'exposition. En cause, selon la docteure en géopolitique, des discours de haine qui se banalisent sur les réseaux sociaux notamment.
Ces discours qui se sont installés depuis une vingtaine d'années où la haine d'Israël a pris des proportions immenses fait que les jeunes ont cette image très négative d'Israël, du sionisme et donc par extension des juifs qui ne sont plus vus comme de potentielles victimes, comme ils l'ont été à travers l'histoire.
Elle note donc un décrochage générationnel, des difficultés pour identifier ce qui relève ou non de l'antisémitisme chez les jeunes. Un constat qui ne devrait pas manquer d'alerter l'ancien ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, le Premier ministre qui doit prononcer demain soir un discours lors du dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France.
Jeanne Serrin, la transphobie est un délit. Pourtant, on assiste aujourd'hui en France à une offensive transphobe. homophobe. C'est ce qu'estiment plus de 800 collectifs et personnalités d'Annie Ernaux à Vanessa Springora. Tous et toutes co-signataires d'une tribune cette semaine pour dénoncer la proposition de loi du Parti Les Républicains contre les mineurs trans et la sortie d'un livre haineux promu par l'ensemble de l'extrême droite politique, expliquent les signataires qui appellent donc à manifester partout en France aujourd'hui. À Paris, la manifestation partira à 14h, place de la République. Coulisses, scènes, costumes, l'opération, tous à l'opéra, 17e édition, vous propose de découvrir l'envers du décor de cet art lyrique. Opération qui se termine ce soir. On vous invite à vous rendre dans les opéras de vos villes. Un mot du temps pour cet après-midi avec de la pluie sur la quasi-totalité des régions. Des orages sont même attendus du Périgord au sud du Limousin. Comptez 16 à 20 degrés sur la moitié nord, 18 à 24 degrés au sud.